Chapitre 5. Lutte pour le vaisseau. 17. L'impression première de Trévise fut qu'il était sur le plateau d'un hyperdrame, plus précisément un mélo historique sur l'époque impériale. Il y avait un décor particulier, avec quelques variantes. Qui sait, peut-être n'en existait-il qu'un seul, utilisé par tous les metteurs en scène, qui représentait la vaste cité planétaire de Trentor au temps de sa splendeur. On retrouvait les larges espaces, le grouillement affairé des piétons, les petits véhicules qui fonçaient le long des couloirs à eux réservés. Trévise leva les yeux, s'attendant presque à voir des aérotaxis grimper vers le renfoncement de cavités obscures, mais ce détail au moins était absent. En fait, une fois passée la surprise initiale, il était clair que l'édifice était bien plus exigu que ce qu'on aurait pu escompter voir sur Trentor. Ce n'était qu'un bâtiment et non pas une partie d'un complexe qui s'étendait sans hiatus sur des milliers de kilomètres dans chaque direction. Les couleurs également étaient différentes. Dans les hyperdrames, Trentor était toujours dépeinte comme incroyablement criarde et ses habitants étaient immanquablement affublés de vêtements parfaitement dénués de tout aspect pratique et utilitaire. Toutefois, cet assaut de couleurs et de fanfreluches était censé jouer un rôle symbolique, car il signifiait la décadence, un point de vue qui était désormais obligatoire, de l'Empire en général, et de Trentor en particulier. Si tel était le cas toutefois, Comporellon se trouvait alors à l'opposé même de la décadence, car la maigre palette de couleurs qu'avait déjà remarqué Pellorat à l'Astroport avait ici fini de se délaver. Les murs étaient dans des tonalités de gris, les plafonds blancs, les vêtements de la population noirs, gris et blancs. À l'occasion, on apercevait un costume noir uni, encore plus rarement gris uni, jamais de costume tout blanc, à ce que put voir Trévise. Les motifs, en revanche, étaient toujours différents, comme si les gens privés de couleur parvenaient néanmoins, de manière irrépressible, à trouver le moyen d'affirmer leur individualité. Les visages tendaient à être dénués d'expression, ou à tout le moins sinistres. Les femmes portaient les cheveux courts. Les hommes les avaient plus longs, mais ramenés en arrière pour former une petite queue. Les gens qui se croisaient ne se regardaient pas. Chacun semblait respirer la préoccupation, comme si tout le monde avait une affaire bien précise en tête et pas de place pour autre chose. Hommes et femmes étaient vêtus d'eux-mêmes, avec seule la longueur des cheveux et la légère proéminence d'un sein ou la largeur d'une hanche pour marquer la différence entre les sexes. On les guida tous trois vers un ascenseur qui descendit de 5 niveaux. Là, ils émergèrent pour être conduits devant une porte sur laquelle était inscrit en petites lettres discrètes, blanc sur gris, « Mitsa Lisalor, mine trans ». Le Comporellien de tête effleura l'inscription qui, après quelques instants, s'illumina en réponse. La porte s'ouvrit et ils entrèrent. C'était une pièce spacieuse, plutôt vide, la nudité de son contenu servant peut-être à souligner une espèce de gâchis d'espace manifeste destiné à souligner le pouvoir de son occupant. 2 gardes se tenaient contre le mur opposé, le visage inexpressif et l'œil fixé sans faillir sur les nouveaux arrivants. Un vaste bureau occupait le centre de la pièce, peut-être légèrement décalé en arrière. Derrière se tenait celle qui était sans doute Mitsa Lisalor, corps imposant, visage lisse, yeux noirs. 2 mains vigoureuses et énergiques, avec de longs doigts au bout carré, étaient posées sur le bureau. La mine trans, ministre des Transports, supposa Trévise, portait une veste dont les larges revers d'un blanc éblouissant contrastaient avec le gris sombre du reste de sa mise. La double barre blanche s'étendait en diagonale sous les revers pour venir se croiser au centre de la poitrine. Trévise remarqua que même si le vêtement était coupé de manière à effacer la proéminence des seins de la femme, le X immaculé attirait au contraire l'attention sur eux. Le ministre était sans aucun doute une femme. Même si l'on ignorait ses seins, ses cheveux courts le montraient, et bien qu'elle ne portât pas de maquillage, ses traits également. Sa voix aussi était indiscutablement féminine, un contralto profond. « Bonjour, » leur dit-elle. « Ce n'est pas souvent que j'ai l'honneur d'une visite d'homme de Terminus. ainsi que d'une femme non signalée. Son regard passa de l'un à l'autre avant de s'arrêter sur Trévise qui se tenait très raide, le sourcil froncé. Et dont l'un est en outre membre du conseil. Conseiller de la Fondation. Rectifia Trévise en essayant de faire retentir sa voix. Conseiller Golan Trévise. En mission pour la Fondation. En mission. Haussement de sourcil du ministre. En mission, répéta Trévise. Pourquoi dans ce cas sommes-nous traités comme des félons? Pourquoi nous avoir fait interpeller par des gardes armés et conduire ici comme des prisonniers? Le conseil de la Fondation, j'espère que vous le comprenez, ne sera pas ravi de l'apprendre.
Quoi qu'il en soit, dit Joie dont la voix semblait un rien perçante comparée à celle de l'autre femme plus âgée, va-t-on rester debout comme ça, indéfiniment?
Madame le ministre considéra longuement Joie d'un regard froid, puis leva un bras et dit « Trois chaises sur le champ ». Une porte s'ouvrit et trois hommes vêtus de sombre à la mode comporélienne entrèrent au petit trot en portant trois chaises. Trévise et ses deux compagnons s'assirent.
« Là, » dit le ministre avec un sourire hivernal, « est-on à l'aise à présent ?»
Trévise trouva que non. Les chaises étaient dépourvues de coussins, froides au contact avec l'assise et le dossier droit, ne faisant aucun compromis avec la forme du corps.
Pourquoi sommes-nous ici ? Demanda-t-il.
Le ministre consulta des papiers épars sur le bureau.
Je m'en vais vous l'expliquer aussitôt que je serai sûr de deux faits.
Votre vaisseau est l'étoile lointaine partie de Terminus, est-ce correct, conseiller ?
Oui.
Le ministre leva la tête.
J'ai fait usage de votre titre, conseiller. Voudriez-vous par courtoisie faire usage du mien ?
Madame le ministre, sera-t-il suffisant ? Ou avez-vous un titre honorifique ?
Pas de titre honorifique, monsieur. Et vous n'avez pas besoin de vous répéter. Ministre est suffisant, ou madame, si la répétition vous lasse.
En ce cas, ma réponse à votre question est « oui, ministre ». Le commandant du vaisseau est Golan Trévise, citoyen de la Fondation et membre du Conseil de Terminus, nouvellement promu, de fait. Et vous êtes Trévise. Suis-je dans le vrai en tout ceci, conseiller ?
Vous l'êtes, ministre.
Et puisque je suis citoyen de la Fondation, je n'ai pas encore terminé, conseiller. D'ici là, épargnez-moi vos objections. Vous accompagnant, il y a Janov Pelorat, érudit, historien et citoyen de la Fondation. Et c'est bien vous, n'est-ce pas, docteur Pelorat ?
Pelorat ne put réprimer un léger sursaut lorsque la fonctionnaire tourna vers lui son regard aigu.
« Oui, effectivement, ma chère... »
Il s'interrompit et reprit.
« Oui, effectivement, ministre. »
Le ministre croisa les doigts, raide. « Je ne vois nulle part mention d'une femme dans le rapport qui m'a été transmis. Cette femme fait-elle partie de l'équipage de ce vaisseau ?»«
Elle en fait partie, ministre, » répondit Trévise.
« Alors je m'adresse directement à elle. »
Votre nom ?
On m'appelle Joie, dit celle-ci, assise bien droite et s'exprimant avec calme et clarté. Bien que mon nom tout entier soit plus long, madame. Souhaitez-vous l'entendre en entier ?
Je me contenterai de Joie pour l'instant.
Êtes-vous citoyenne de la Fondation, Joie ?
Non, madame.
De quel monde êtes-vous citoyenne, Joie ?
Je n'ai aucun document attestant ma citoyenneté sur aucun monde, madame.
Aucun papier, Joie ?
Elle fit une petite marque sur le dossier ouvert devant elle. Le fait est noté.
Que faites-vous à bord de ce vaisseau ?
Je suis passagère, madame.
Le conseiller Trévise ou le docteur Pelorat ont-ils demandé à voir vos papiers avant votre embarquement, Joie ?
Non, madame.
Les avez-vous informés que vous étiez dépourvu de papier, Joie ?
Non, madame.
Quelle est votre fonction à bord de ce vaisseau, Joie ? Votre nom traduirait-il votre fonction ?
Je suis passagère, répondit fièrement Joie.
Et n'ai pas d'autre fonction.
Trévise intervint.
Pourquoi harceler ainsi cette femme, ministre? Quelle loi a-t-elle enfreinte?
Les yeux du ministre Lisalore passèrent de joie à Trévise.
Vous êtes d'un autre monde, conseiller,
et ne connaissez pas nos lois.
Malgré tout, vous y êtes soumis dès lors que vous choisissez de visiter notre planète. Vous n'apportez pas vos lois avec vous. C'est une règle générale dans la galaxie, crois-je savoir.
Certes, ministre, mais cela ne me dit pas laquelle de vos lois elle a enfreinte.
Il est de règle générale dans la galaxie, conseiller, qu'une visiteuse venue d'un monde extérieur au dominion de la planète qu'elle visite ait ses papiers sur elle.
Bien des mondes sont libéraux en ce domaine, soit par intérêt pour le tourisme, soit par indifférence au respect de l'ordre, nous autres Comporéliens ne sommes pas ainsi. Nous sommes un monde respectueux de la loi et ferme dans son application. Cette femme est une personne sans planète, et en tant que telle, elle enfreint notre loi.
En l'occurrence, elle n'avait pas le choix, remarqua Trévise.
Je pilotais le vaisseau et l'ai posé sur Comporélon. Il fallait bien qu'elle nous accompagne, ministre, ou bien suggérez-vous qu'elle aurait dû demander à être larguée dans l'espace?
Tout cela signifie simplement que vous avez également enfreint notre loi, conseiller.
Non.
Absolument pas, ministre. Je ne suis pas un étranger, je suis citoyen de la Fondation et Comporélon ainsi que ses mondes vassaux forment une puissance associée à la Fondation. En tant que citoyen de celle-ci, je suis libre de voyager ici.
Certainement, conseiller, aussi longtemps que vous détenez les documents prouvant que vous êtes bel et bien citoyen de la Fondation.
Ce qui est le cas, ministre.
Pourtant, même en tant que citoyen de la Fondation, vous n'avez pas le droit d'enfreindre nos lois en amenant avec vous une personne apatride.
Trévise hésita. À l'évidence, Kendray, le garde frontalier, n'avait pas tenu parole. Il était donc inutile de le protéger.
Nous n'avons pas été stoppés au poste d'immigration,
que j'ai pris pour une autorisation implicite de me faire accompagner par cette femme, ministre.
Il est exact que vous n'avez pas été stoppés, conseiller.
Il est exact que la femme n'a pas été signalée par les services d'immigration et qu'elle a franchi librement la douane.
Je puis soupçonner toutefois que les fonctionnaires de la station d'entrée auront décidé, et tout à fait correctement, qu'il était plus important de faire atterrir votre vaisseau à la surface que de s'inquiéter d'une personne apatride.
Ce qu'ils ont fait était, stricto sensu, une infraction au règlement et l'affaire sera réglée comme il convient. Mais je n'ai aucun doute que la décision sera que l'infraction était justifiée.
Nous sommes un monde strictement légaliste, conseiller, mais pas strict au-delà des exigences de la raison.
Alors, dit aussitôt Trévise, j'en appelle à votre raison pour infléchir votre rigueur, ministre. Si effectivement vous n'avez reçu aucune information du poste d'immigration quant à la présence d'une personne apatride à mon bord, alors vous ignoriez que nous enfreignions une loi quelconque au moment de notre atterrissage. Or, il est tout à fait patent que vous étiez prête à nous interpeller sitôt que nous nous serions posés. Et c'est effectivement ce que vous avez fait. Pourquoi donc, si vous n'aviez aucune raison d'estimer qu'il y eût une quelconque infraction?
Le ministre sourit.
Je comprends votre confusion, conseiller. Laissez-moi vous assurer, je vous prie, que ce que nous avons pu apprendre ou non sur la condition d'apatride de votre passagère n'avait rien à voir avec votre interpellation.
Nous agissons sur mandat de la Fondation, dont nous sommes, comme vous l'avez souligné, une puissance associée.
Trévise la fixa, ébahie.
Mais c'est impossible, ministre. C'est même pire, c'est ridicule.
Le rire du ministre était pareil à un doux flot de miel.
J'aimerais bien savoir en quoi, selon vous, être ridicule est pire qu'être impossible, conseiller.
Je partage votre point de vue sur ce point. Malheureusement pour vous, toutefois, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi, selon vous, devrait-il en être ainsi?
Parce que je suis un fonctionnaire du gouvernement de la Fondation en mission pour lui.
et qu'il est absolument inconcevable que celui-ci désire m'arrêter, ou même qu'il ait le pouvoir de le faire, puisque je jouis de l'immunité parlementaire.
Ah, vous omettez mon titre.
Mais vous êtes profondément troublé, et c'est peut-être pardonnable.
Quoi qu'il en soit, on ne m'a pas directement demandé de vous arrêter. Je l'ai fait uniquement pour pouvoir accomplir ce qu'on m'a effectivement demandé de faire, conseiller.
Et qui est, ministre ? Demanda Trévise en essayant de maîtriser son émotion face à cette femme redoutable.
Qui est de réquisitionner votre vaisseau, conseiller, pour le restituer à la Fondation.
Quoi ?
De nouveau, vous omettez mon titre, conseiller. Voilà qui est très négligent de votre part, et ne fait rien pour alléger votre cas.
Le vaisseau ne vous appartient pas, je présume. L'avez-vous dessiné, construit ou acheté ?
Bien sûr que non, ministre. Il m'a été attribué par le gouvernement de la Fondation.
Eh bien, sans doute le gouvernement de la Fondation a-t-il le droit d'annuler cette attribution.
Ce vaisseau est de grande valeur, j'imagine.
Trévise ne répondit pas.
C'est un vaisseau gravitique, conseiller, reprit le ministre. Il ne doit pas en exister beaucoup. Et même la Fondation n'en possède sans doute que très peu. Et elle doit regretter de vous avoir assigné l'un de ces rares spécimens. Peut-être parviendrez-vous à les persuader de vous attribuer un autre vaisseau de moindre valeur, mais qui vous suffira néanmoins amplement pour votre mission.
Nous devons, quant à nous, récupérer le vaisseau sur lequel vous êtes arrivé.
Non, ministre. Je ne peux pas vous abandonner le vaisseau.
Je ne puis croire que la Fondation exige de vous une telle chose.
Le ministre sourit.
Pas uniquement de moi, conseiller. Pas de Comporellon en particulier. Nous avons tout lieu de croire que la requête a été transmise à l'ensemble fort nombreux des planètes et régions sous la juridiction de la Fondation ou associée à elle.
D'où j'en déduis que la Fondation ignore votre itinéraire et vous recherche, pour le moins activement.
D'où j'en déduis également que vous n'avez nulle mission à remplir vis-à-vis de Comporellon au nom de la Fondation.
Puisque dans ce cas, elle saurait où vous trouver et nous aurait contacté nommément.
En bref, conseiller, vous m'avez menti.
Trévise répondit non sans une certaine difficulté.
J'aimerais voir une copie de la requête que vous avez reçue du gouvernement de la Fondation, ministre. Je pense être en droit de vous le demander.
Certainement.
Si tout ceci doit déboucher sur une action en justice.
Nous prenons fort au sérieux nos procédures légales, conseiller, et vos droits seront entièrement préservés, je vous l'assure.
Il serait préférable, et plus facile toutefois, que l'on parvienne ici même à un accord en s'épargnant la publicité et les retards occasionnés par une action légale. Nous le préférerions, et, j'en suis certaine, la Fondation de même, qui ne peut se permettre de voir toute la galaxie apprendre qu'un législateur est en fuite. Cela la ferait voir sous un jour ridicule, et selon vos critères et les miens, ce serait pire qu'impossible.
De nouveau, Trévise resta sans répondre. Le ministre attendit quelques instants, puis poursuivit, toujours aussi imperturbable.
Allons, conseiller. D'une manière ou d'une autre, par un accord officieux ou par les moyens légaux, nous avons l'intention de récupérer le vaisseau.
La peine encourue pour introduction d'un passager apatride dépendra de la voie adoptée.
Vous exigez l'application de la loi, et cette femme représente un point supplémentaire contre vous. Vous endurez tout le poids de la peine correspondant à ce délit, peine qui ne sera pas légère, croyez-moi.
D'un autre côté, nous nous mettons d'accord, et votre passagère peut être renvoyée par le premier vol commercial vers la destination de son choix, la possibilité vous étant laissée à vous et votre assistant de l'accompagner si tel est votre souhait. Ou bien encore, et si la Fondation est d'accord, nous pouvons vous fournir l'un de nos vaisseaux d'un modèle parfaitement adéquat, pourvu évidemment que la Fondation nous le remplace par un modèle équivalent.
Ou enfin, si pour quelque raison vous ne désiriez pas retourner vers un territoire contrôlé par la Fondation, nous serions prêts à vous offrir refuge et peut-être éventuellement la citoyenneté comporélienne.
Vous voyez donc que vous avez quantité de possibilités de gains si vous acceptez un arrangement à l'amiable, mais pas la moindre si vous insistez pour faire valoir vos droits légaux.
Ministre, répondit Trévise, vous êtes trop pressé. Vous promettez ce que vous ne pouvez tenir. Vous ne pouvez m'offrir refuge face à une requête de la Fondation exigeant que je lui sois livré.
Conseiller, je n'ai jamais promis ce que je ne pouvais tenir.
La requête de la Fondation ne concerne que votre vaisseau.
Elle n'en a fait aucune vous concernant en tant qu'individu, vous ou l'un quelconque de vos passagers.
La seule demande a trait à votre bâtiment.
Trévise jeta un bref regard à Joie avant de demander
« Puis-je avoir votre permission, ministre, pour consulter un court instant le docteur Pellerat et mademoiselle Joie ?»«
Certainement, conseiller. »«
Je vous accorde un quart d'heure. » »«
En privé, ministre. » »«
On va vous conduire dans une salle, et au bout d'un quart d'heure, vous serez ramené ici, conseiller. »
Dans l'intervalle, vous ne serez pas dérangé, et nous ne chercherons pas non plus à espionner votre conversation. Vous avez ma parole et je la tiens toujours.
Néanmoins, vous restez sous bonne garde. Aussi, ne faites pas la bêtise de tenter de vous échapper.
Nous comprenons, ministre.
Et quand vous reviendrez, nous comptons sur votre libre accord pour nous remettre le vaisseau.
Dans le cas contraire, la loi suivra son cours, conseiller, pour votre plus grand désagrément à tous.
Est-ce bien compris ?
Parfaitement compris, ministre,
dit Trévise en maîtrisant sa rage, car l'exprimer ne lui aurait absolument rien valu de bon.